RFI. Grand reportage.
Avec le coronavirus, la Suède est l'un des pays qui compte le taux de mortalité le plus élevé en Europe, près de 5 fois plus que chez son voisin danois et jusqu'à 10 fois plus qu'en Norvège. Aujourd'hui, la courbe des décès baisse, mais le doute sur la stratégie menée s'est installé. Pas de confinement strict, un appel à la responsabilité individuelle. Et au final, dans ce pays jusqu'ici réputé pour la qualité de son modèle social, des populations vulnérables, personnes âgées et issues de l'immigration touchées de plein fouet. Coronavirus, le révélateur des fragilités du modèle suédois. C'est un grand reportage d'Anissa El-Jabri.
Un bâtiment administratif gris et banal du centre de Stockholm, c'est le siège de l'agence publique de santé suédoise. Deux policiers à l'entrée, en uniforme, une liste à la main, ils contrôlent les identités. Il est presque 14h, l'heure du point presse presque quotidien sur la pandémie. L'actualité du jour, les vacances à venir, question d'un journaliste.
J'aimerais poser une question sur l'inquiétude par rapport à la nouvelle autorisation de voyage cet été à l'intérieur du pays. Je vais vous lire ce que la région du Halland a écrit dans un communiqué de presse. Je cite « Nous nous inquiétons de la levée des restrictions de déplacement, de leurs potentielles conséquences sanitaires dans notre région pour les personnes et pour les hôpitaux. Les prédictions que nous avons vues montrent un risque de dépassement de notre capacité hospitalière. Nous ne savons pas si nous serons en mesure de gérer un grand nombre de visiteurs cet été. » Donc ma question, c'est cette grande inquiétude qui est soulevée ici. Est-elle justifiée ?
Voir débarquer les habitants de Stockholm classés en alerte rouge pandémie, ça inquiète bien au-delà de cette région en Suède. La réponse, tout va bien, nous avons mesuré les risques et les bénéfices. Une réponse presque invariable sur la plupart des sujets. Ils sont là, quatre médecins, quatre pupitres sur une petite scène, quatre intervenants à la parole équitablement répartis. Rien ne distingue officiellement le statut de quasi-star de l'un d'entre eux, l'épidémiologiste en chef Anders Tegnell. Rien si ce n'est la file d'attente à l'extérieur sur une pelouse ensoleillée pour lui poser des questions. La presse internationale doit s'inscrire et patienter sous la surveillance de l'officier de presse pour grappiller quelques minutes d'entretien. Vous avez reconnu des erreurs dans votre stratégie. Si vous aviez des choses à refaire, que referiez-vous ?
Le problème que nous avons en Suède, ce sont les soins dans les maisons de retraite, mais comme partout en Europe, dans plus ou moins chaque pays. Donc je pense qu'avec l'expérience et les connaissances que nous avons désormais, nous pouvons mieux protéger les personnes âgées. Et ça pourrait faire une vraie différence.
Mais certains disent qu'avec votre stratégie, vous avez laissé tomber en quelque sorte les plus vulnérables. Qu'est-ce que vous leur répondez ?
Non, ça n'est pas vrai. Nous avons parlé de l'importance d'atteindre et de protéger les plus vulnérables très tôt, dès que nous avons vu les premiers cas en Chine. Nous avons vu que certains seraient plus atteints. Tout le long de cette pandémie, nous nous sommes préoccupés d'eux.
Anders Tegnell accepte les questions, mais s'agace vite et met fin à l'interview. En pull et jean, cheveux légèrement bataille, visage barré par de fines lunettes, le médecin suédois se sait scruté, adoré par ses fans, critiqué par une partie de la communauté scientifique suédoise.
Sa façon de se présenter au public et de dire chaque jour avec une voix très calme que tout se passe bien, c'est une façon de communiquer qui passe très bien auprès des Suédois. Sauf que sur le fond, les propos tenus, ça n'a rien à voir avec la réalité.
Lena Enhorn est médecin spécialiste des virus. Depuis janvier, cette scientifique célèbre en Suède alerte sur le danger du Covid-19, signe des articles, des tribunes contre la stratégie choisie. C'est dangereux et irresponsable, dit-elle. Elle est parfois seule, parfois avec d'autres scientifiques. De longues semaines pour elle à s'exprimer dans le désert.
La première raison à ça, c'est que dans une crise en général, on veut croire que les autorités savent ce qu'elles font. Je pense que ça a été pareil dans la plupart des pays. C'est, je crois, assez universel dans un moment comme ça, ce besoin de faire confiance aux autorités. À ça, il faut ajouter cette tradition suédoise. Enfin, c'est même une règle. Le gouvernement décide, certes, mais suit à 100% les recommandations des experts et des autorités sanitaires. En revanche, ce qui n'est pas du tout suédois comme façon de faire, c'est que normalement, la tradition de la Suède, et le pays est connu pour ça, c'est de prendre vraiment soin de ses citoyens, d'avoir des filets de protection pour tous. Ça, c'est vraiment notre façon de faire.
Och som har safety nets där man verkligen tar hand om medborgarna och så vidare. Traditionellt sett har det varit så. Men vad som har gjort det här, att vi har kommit till det här läget.
Confiante et sûre de son modèle social, la Suède a pris de plein fouet les ravages de la maladie.
Mon père avait 76 ans. Il habitait dans une maison pour personnes âgées atteintes de maladies mentales. Quand le virus est entré dans la maison de retraite, c'est allé très vite. Il est tombé malade un jeudi. Le vendredi, il a été diagnostiqué positif. Le week-end, ça s'est aggravé. Et le lundi soir, il est mort.
Peter Gustafsson a donné rendez-vous dans un cimetière ensoleillé du cœur de la capitale. Des arbres en fleurs, des tombes à l'ombre d'une église, mais aussi à cette heure du déjeuner, des promeneurs en famille et des coureurs dans les allées.
Je me sens triste parce qu'on nous avait dit au début qu'on protégerait les personnes âgées. Et le fait est que la société n'a pas réussi à les protéger, ni à protéger mon père. Je ne suis pas sûr que mon père aurait été sauvé par un confinement plus strict, car il y a des pays qui ont pris des mesures très fortes et qui n'ont pas été épargnés par la maladie et la mort. Mais je pense que le problème ici, c'est qu'on a l'air de penser qu'il est impossible d'arrêter la propagation du virus, alors que beaucoup d'autres pays ont l'air d'avoir réussi à le faire. Alors je pense qu'on va devoir avoir un gros débat sur le sujet en Suède. Pourquoi dire que c'est impossible d'arrêter le virus et que tout le monde va l'attraper ?
Stor diskussion under den kommande tiden i Sverige. Varför en sån bild etablerat sig av att det inte går att stoppa, att alla till slut kommer att få den.
En Suède, ils sont encore peu nombreux à mettre en cause haut et fort la stratégie menée. On met le plus souvent en avant les conditions de travail. C'est le cas de Sineva Ribeiro. Cette directrice du syndicat des maisons de retraite habite dans le nord de la Suède, loin de la capitale. Ses critiques, c'est au téléphone qu'elle nous les expose.
Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Je pense que personne n'a vraiment compris que si quelqu'un tombait très malade dans une maison de retraite, il y aurait trop peu de personnel compétent pour le soigner. Il y a trop peu d'infirmières, des aides-soignantes qui n'ont pas reçu de vraie formation, sans compter que c'est très difficile de faire venir un médecin sur place. Et puis pendant longtemps, on n'a pas eu de matériel de protection. Et même si maintenant ça arrive par endroits, dans certaines maisons de retraite, il manque encore du matériel.
Ça, c'est une phrase qui fait sortir Anders Jansson de ses gonds. Ce médecin réputé donne rendez-vous en bas de chez lui dans un quartier calme de Stockholm. Ce matin-là, il n'a pas encore commencé sa journée de travail. Il répond aux questions debout, dos au mur d'un tout petit immeuble, visage impassible et colère froide.
Dire comme on l'a fait que c'est parfaitement sûr de travailler avec un patient qui tousse et qui a le Covid, si on porte simplement une visière sur le visage, cela va à l'encontre de toutes les connaissances. On sait très bien que ce n'est pas une protection suffisante. Cette façon de tromper les gens, de les faire travailler sans le matériel adéquat, avec un risque pour leur santé et pour leur vie, jamais je n'aurais pensé que ça pouvait arriver un jour en Suède. Je pensais qu'on aurait eu un comportement honnête, qu'on aurait dit qu'on n'avait tout simplement pas réussi à trouver le matériel de protection dont on avait besoin. Mais ce n'est pas ce qu'on a fait. Pour moi, se comporter comme ça, c'est la même morale que dans l'Union soviétique, quand ils ont envoyé de jeunes hommes nettoyer le réacteur de Tchernobyl sans leur dire que c'était dangereux.
La réputation de transparence et de progressisme de leur pays, les Suédois en sont souvent très fier. Alors avec la pandémie, Anders Janssen, le scientifique critique, s'est souvent senti démuni.
Je ressens une grande frustration parce que ça a été très très dur de se faire entendre par les autorités sanitaires et par le système politique qui a l'air de seulement écouter la petite agence de santé suédoise et qui ignore le savoir énorme qu'il y a dans le monde. Moi, j'ai vécu ça comme si la Suède était soudainement devenue climato-sceptique. Pour moi, c'est vraiment le monde à l'envers.
À l'autre bout de la capitale, dans une banlieue d'une classe moyenne issue de l'immigration, on a ensuite rendez-vous avec un autre très grand déçu de la gestion de la pandémie. Au bord d'une rivière, assis sur un banc, Nuri Kino est une figure très connue en Suède. Issu d'une famille de réfugiés politiques, journaliste d'investigation, militant des droits de l'homme, quand cet homme, souriant derrière ses lunettes de soleil, décroche son téléphone, on l'écoute.
I'm a very proud Swede. It's a multicultural country, but in order to handle.
Je suis très fier d'être suédois. La Suède est un pays multiculturel, mais pour gérer cela, il faut comprendre les différentes cultures. Et j'ai été très effrayé quand, fin février, début mars, j'ai appelé les médias, les services publics, les autorités pour sonner l'alerte et leur dire hey, écoutez, la stratégie suédoise est peut-être bonne, je n'en sais rien, je ne suis pas épidémiologiste, mais je sais une chose, et pour moi, c'est certain. Les immigrés vont être très fortement atteints par le virus. Et j'ai été très surpris que les personnes responsables de la sécurité de tous, de celle de chaque citoyen suédois, ne comprennent pas de quoi je parle. Il n'y a pas que des facteurs économiques et sociaux, des gens qui sont pauvres et vivant assez dans de petits appartements. C'est aussi qu'ils socialisent différemment. Ils ont leurs parents, parfois leurs grands-parents à la maison. Et si ça n'est pas le cas, ils vont les voir au minimum une fois par semaine.
And that they live overcrowded in small apartments, but they socialize differently. They have their parents in their houses, their grandparents. Even if they don't, they visit them at least once a week.
Face à la lenteur de la réaction officielle, certains se sont organisés. Par exemple, dans la communauté d'origine somalienne. À 36 ans, Degmodar est devenu en quelques jours porte-parole bénévole d'un comité mis sur pied pour protéger la population de son quartier face à la pandémie, la banlieue Jarva, au nord de la capitale.
Nous avons créé ce groupe pour mettre en lumière les très grandes inégalités dans la société suédoise, pour faire circuler ces informations, expliquer pourquoi cette population est plus vulnérable à la pandémie. Beaucoup de gens, au début, ont pensé que c'était à cause du manque de compréhension des consignes, mais nous pensons que c'est en raison d'un manque d'adaptation des recommandations des autorités sanitaires à cette zone. Par exemple, celle qui consiste à dire aux gens qu'ils doivent se confiner et maintenir la distanciation sociale. Mais il faut aussi prendre en considération le fait que les personnes qui habitent là travaillent dans les services, les transports publics, les maisons de retraite. Ça les rend particulièrement vulnérables à une infection par le virus.
⁇ 20% des Suédois aujourd'hui sont nés en dehors du pays. Et pourtant, la Suède a bien du mal à aborder cette réalité entre ignorance et crainte d'un débat politique compliqué. On est allé en parler avec un élu local dans le quartier de Tensta, une autre banlieue défavorisée de Stockholm. À 45 minutes en voiture du centre, on retrouve entre deux petits immeubles à côté d'une aire de jeu, Ole Jörgen Persson. Ce jeune élu du Parti conservateur est lui assis sur un banc en fin de journée, chargé des questions sociales au sein de son parti, il sait bien pourquoi une grande partie de la classe politique suédoise a bien du mal à s'emparer du sujet.
Men det vi såg framförallt i sociala medier när det blev känt att det var ett väldigt stort utbrott här var ju att
quand les chiffres de surmortalité ici ont été rendus publics, quand on a su qu'il y avait une grande diffusion de l'épidémie à Tensta comme dans d'autres banlieues, Nous avons vu, en particulier sur les réseaux sociaux, des forces qui ne veulent pas le bien de ces quartiers ou des habitants qui en ont profité pour pousser un tout autre agenda, des idées racistes. Certains en ont aussi rajouté sur les préjugés, sur la façon de vivre des gens qui vivent dans ces quartiers. Et donc il y a un risque que ces gens-là prennent le dessus du débat et de la discussion.
La déferlante de propos racistes sur les réseaux sociaux, ils sont très peu en Suède à l'évoquer spontanément. Dans ce pays qui vénère le consensus et la réflexion sur le temps long, le gouvernement vient d'accepter le principe d'une commission d'enquête sur la stratégie face au coronavirus.
Notre responsabilité collective, et avant tout la mienne en tant qu'élu politique dans un quartier comme celui-ci, c'est d'aller à l'encontre de ce genre d'idées, en avançant avec des faits et des connaissances. Le modèle suédois a des grands avantages, et le plus important d'entre eux, c'est que l'égalité y est beaucoup plus grande que dans d'autres pays, y compris la France. Mais le modèle suédois n'est pas parfait. Et avec cette pandémie, nous avons échoué à protéger les plus vulnérables. C'est pour ça que ça devient une question politique.
Et därför så blir det naturligtvis en politisk fråga hur man ska motverka det i framtiden.
Cette question très politique, les sociaux-démocrates au pouvoir assument de ne pas toujours pouvoir y répondre. Au Parlement, à Stockholm, un bâtiment clair avec de grandes fenêtres sur l'extérieur, moquette épaisse qui étouffe les pas, machine à café dans les couloirs avec gobelets en carton recyclable. On parle bien souvent, quelle que soit la couleur politique, du sort terrible des personnes âgées, beaucoup moins des immigrés. Frédéric Olofsson, député social-démocrate.
Je crois que ça a lié avec le fait que nous avons beaucoup de gens qui ont été infectés dans l'hôpital.
Je dirais que ça a un rapport avec le fait qu'on a vraiment beaucoup trop de gens qui sont tombés malades dans les maisons de retraite. Ça, c'est clairement une responsabilité très claire des mairies. En Suède, c'est très décentralisé. Et ce sont elles qui décident et qui font des choix pour les maisons de retraite. Ce sont à elles qu'on va demander ce qu'il s'est passé. Mais ensuite, pour les groupes dans la société qui ont une moins bonne santé, plus de diabète par exemple, différentes formes de maladies qui sont reliées à des facteurs socio-économiques, c'est une très grande question de trancher sur les responsabilités, de savoir ce qui a joué. Ça va être un très grand débat. S'en sortir et corriger ces différences, cet écart de classe dans le domaine de la santé.
La commission d'enquête n'a pas commencé ses travaux et surtout le gouvernement veut des conclusions pour après 2022, soit après les élections. La coalition au pouvoir est très fragile, les sociaux-démocrates et écologistes sont minoritaires et tous les partis sont menacés par la montée en puissance de l'extrême droite, troisième parti du pays, avec 18% aux dernières législatives en 2018.
Coronavirus, le révélateur des fragilités du modèle suédois. Un grand reportage d'Anicel Jabri. Réalisation Pierre Chaffange. Some now someday.